à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 en universel. Nous sommes mardi 3 avril 2018, au sommaire. Au Cameroun, 5 militaires ont été tués dans l'extrême nord du pays. Les autorités accusent Boko Haram. Élections en République démocratique du Congo, la Corée du Sud met officiellement en garde contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme sud-coréenne. Le HCR espère qu'Israël va bientôt reconsidérer sa décision d'annuler un accord sur les migrants africains. En France, grève des cheminots contre la réforme du secteur ferroviaire. Parti Magazine, retour sur la rencontre hier entre le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition, c'est Lou Dalein Diallo.
À l'heure actuelle, M. Dalein est empêtré dans des difficultés énormes au sein de l'IFDG où son leadership est fortement contesté.
Interview de Bahouri à suivre dans la partie magazine. Donc, et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. L'armée camerounaise endeuillée par la mort de 5 soldats dans l'extrême nord du Cameroun. Ils ont été tués au cours d'une attaque attribuée à Boko Haram, selon les autorités du pays. Plus de précisions avec le correspondant de VO Afrique à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
C'est à bord de pick-up que les combattants de Boko Haram ont attaqué un poste avancé du 41e bataillon d'infanterie motorisée dans la nuit d'hier à Fotokol. L'attaque violente, précise les sources de sécurité, a coûté la vie à 5 militaires camerounais, dont un lieutenant, par ailleurs chef de détachement, venu en renfort à partir de le poste de Ngoulouma, dans la région de l'extrême nord. 3 autres soldats camerounais appartenant à la force multinationale mixte seront blessés par les mêmes assaillants, d'après les sources hospitalières de la région. Les combattants de Boko Haram ont aussi emporté un canon de guerre de l'armée camerounaise et incendié complètement le poste de combat de Sakmé. Depuis dimanche dernier, l'on note un regain d'insécurité dans l'extrême nord du pays, une région en proie aux attaques répétées de Boko Haram. Au moins 9 personnes sont mortes entre dimanche et hier soir dans 3 attaques attribuées aux combattants de Boko Haram, selon les autorités administratives de la région de l'extrême nord. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En Centrafrique, un casque bleu a été tué et 11 autres blessés dans l'attaque d'une base de l'ONU. Selon Stéphane Dujarric, porte-parole des Nations Unies, des milices anti-Balaka ont pris pour cible une base temporaire des casques bleus à Tagbara, près de la ville de Bambari, dans le sud du pays. Élection du 23 décembre en RDC, la Corée du Sud a officiellement mis en garde contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme sud-coréenne. Le point avec Claire Mangebourg.
Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables ou un nouveau retard de la tenue des élections. Les autorités sud-coréennes ne veulent pas que ces machines deviennent la cible des critiques et disent partager les préoccupations de la communauté internationale sur la tenue de ces élections. Début janvier, la CENI a commencé à importer en RDC des machines à voter fabriquées par la société sud-coréenne Miru System. Dans le but de réduire le temps de vote et la période d'attente de l'annonce des résultats, mais aussi la fraude électorale. Un écran tactile permet aux électeurs de choisir ses candidats et la machine permet des résultats en temps réel. L'opposition, qui a accepté le calendrier électoral, prévoyant les élections le 23 décembre, refuse l'utilisation de ce qu'elle surnomme les machines à tricher.
Amnesty International appelle les autorités maliennes à faire la lumière sur des exécutions extrajudiciaires dans le centre du Mali où 6 corps ont été retrouvés dans une fosse commune la semaine dernière. Des associations Peul et de défense des droits de l'homme dont Human Rights Watch ont réclamé l'ouverture d'une enquête après la découverte à Dogo des dépouilles de 6 personnes arrêtées quelques jours plus tôt, selon elle, par l'armée. La mission de l'ONU au Mali a exprimé le 29 mars donc sa vive préoccupation face à l'accroissement des violations et abus graves des droits de l'homme à l'encontre des civils. On retourne en RDC où les ravisseurs du prêtre catholique Célestin Ngango, enlevé dimanche dans l'est du pays, exigent une rançon de $500,000 pour sa libération. La Conférence épiscopale nationale du Congo a déclaré dans un communiqué que ces ravisseurs ont pris contact avec la paroisse. La CENCO exige la remise en liberté de l'abbé Célestin Ngango, prêtre du diocèse de Goma dans le Nord Kivu. En Afrique du Sud, Winnie Mandela aura droit à des funérailles nationales le 14 avril. Les hommages à l'ex-épouse de Nelson Mandela, décédée hier, se poursuivent. Les Sud-Africains n'ont pas oublié son combat contre l'apartheid, malgré son implication dans des dossiers controversés. Patricia Huon.
Depuis hier, de nombreuses personnes ont défilé devant la résidence de Winnie Madikizela Mandela à Soweto. Elles sont venues rendre un dernier hommage à celle que l'on surnommait en Afrique du Sud la mère de la nation.
Maman Winnie Mandela était la voix des sans-voix. Elle représentait les ouvriers, les laissés pour compte. Elle a été une combattante sous l'apartheid. Sans elle, la nation est maintenant plus pauvre.
Elle a fait tellement, elle était une mère pour tous. Une vraie meneuse. Les Sud-Africains savent la torture et la douleur qu'a subie Winnie quand Mandela était en prison. Elle a été bannie, elle a été emprisonnée. Toute cette douleur, mais elle n'a jamais cessé de se battre, n'a jamais cessé la lutte.
Outre la population, des personnalités sud-africaines comme le président Cyril Ramaphosa ou l'opposant de la gauche radicale Julius Malema sont aussi venus présenter leurs condoléances. Winnie Mandela était une personnalité très controversée, mais l'heure aujourd'hui est clairement à la célébration de son combat contre l'apartheid. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
On reste en Afrique du Sud où 6 mineurs ont été tués, plusieurs autres blessés dans le nord-est lorsque le bus qui les transportait vers leur mine a été délibérément incendié par un groupe d'inconnus. Selon la police, le bus s'était arrêté pour faire monter à bord des salariés de la mine de platine de Modikwa pour leur service de nuit. Plusieurs assaillants ont alors jeté des cocktails Molotov dans le bus qui a immédiatement pris feu. La police a ouvert une enquête pour identifier les auteurs de l'attaque et leur motivation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a dit ce mardi vouloir déployer l'armée américaine à la frontière avec le Mexique, ce qui constituerait selon lui un grand pas. « Nous allons protéger notre frontière avec notre armée », a déclaré Trump lors d'une rencontre avec des dirigeants des pays baltes. Il a lancé une nouvelle diatribe contre son prédécesseur Barack Obama, qui selon lui a fait des changements ayant tout simplement conduit à une absence de frontières. En France, les cheminots français ont entamé un mouvement de grève qui pourrait paralyser le pays pendant 3 mois. Ils s'opposent à la réforme du secteur ferroviaire proposée par le président Macron. Les éboueurs et les employés du secteur énergétique sont aussi en grève pour réclamer un service public national, alors que le personnel d'Air France en est à sa 4e journée de débrayage en un mois. Nous reviendrons sur la grève des cheminots français dans la partie magazine de cette édition. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est revenu sur sa décision relative à l'application de l'accord conclu avec l'ONU pour la réinstallation de migrants africains dans des pays occidentaux. Une décision qui place le premier ministre israélien sous le feu des critiques. John Lydon.
J'ai décidé de suspendre l'application de cet accord et d'en repenser les termes, a écrit M. Netanyahou sur sa page Facebook, affirmant avoir été attentif aux critiques contre cet accord qui devait voir plus de 16 000 migrants soudanais et érythréens rejoindre des pays occidentaux. Dans le cadre de cet accord, Israël s'engageait aussi à donner le statut de résident temporaire pour chaque migrant quittant le pays, avait précisé M. Netanyahou avant de revenir sur ce compromis. L'Italie, tout comme l'Allemagne, citée par M. Netanyahou comme pays de réinstallation, ont indiqué ne pas être concernés par cet accord, un accord qui a aussi provoqué des vives réactions au sein de la droite israélienne. La suspension de l'accord avec l'OHCR a été saluée par des responsables de la droite et les militants opposés à la présence des migrants en Israël. Elle a en revanche été vivement critiquée par l'opposition. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui en a déploré la suspension, cet accord prévoyait que les autorités israéliennes mettent au point des programmes pour encourager les demandeurs d'asile érythréens et soudanais à déménager des quartiers sud de Tel Aviv.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite a réaffirmé son soutien aux droits des Palestiniens d'avoir un État après les déclarations de son fils qui reconnaît aux Israéliens le droit à un État-nation. Le souverain a réaffirmé la position inébranlable du royaume sur la question palestinienne et les droits légitimes du peuple palestinien à un État indépendant avec Jérusalem comme capitale, a indiqué l'agence officielle SPA en rendant compte d'un entretien téléphonique entre le roi Salman et le président Donald Trump. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakizar qui nous présente la Minute Éco.
La Société financière internationale estime que quelques 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne devraient rejoindre les classes moyennes et celles à revenus élevés d'ici 2030. Les dépenses des ménages devraient augmenter de 5% par an dans la région. Le Sénégal, le Mozambique, le Rwanda, le Niger et l'Éthiopie arrivent en tête des pays qui connaîtront une forte croissance de la consommation des ménages. Le Sénégal recevra de l'Union européenne 28 millions de dollars pour la mise en place de projets de développement sectoriel en vue de diversifier l'économie nationale. Ce financement porte essentiellement sur la sécurité intérieure, le transport et l'exécution du programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Le prochain round de discussion sur le traité de libre-échange nord-américain ALENA pourrait reprendre cette semaine à Washington. C'est pour tenter de lever les points contentieux en suspens, en particulier les règles d'origine dans l'industrie automobile. Une septième session de tractation s'était déroulée fin février au Mexique sans avancée concrète. L'administration Trump accuse l'ALENA d'avoir détruit l'emploi aux États-Unis. D'après l'accord, au moins 62,5% des composants d'un véhicule doivent être fabriqués dans l'un des trois pays signataires de l'ALENA pour bénéficier d'exonération de droits de douane. Les États-Unis veulent relever ce pourcentage à 85% et que 50% des pièces soient d'origine américaine. Le Mexique et le Canada rejettent cette proposition.
Et on passe tout de suite au sport avec vous, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane.
Le Maroc demande des explications à la FIFA.
Oui, Abdourahmane, Fawzi Lekdia, président de la Fédération royale marocaine de football, a envoyé une lettre à Gianni Infantino, président de la FIFA, pour dénoncer des changements de dernière minute dans les conditions d'organisation du Mondial 2026. La FIFA est soupçonnée de favoriser la candidature États-Unis-Mexique-Canada aux dépens de celle du Maroc. Le royaume chérifien estime n'avoir reçu le système de notation de la Task Force, que deux jours avant son dépôt de dossier. La Task Force, c'est l'instance qui doit évaluer les candidatures avant de les présenter au Conseil de la FIFA. Et Fawzi Lekdia n'a pas manqué d'exprimer, je cite, les inquiétudes du Maroc sur l'équité et la transparence de la procédure d'appel d'offres.
L'affiche Juventus de Turin, Real Madrid, lance les quarts de finale aller de la Ligue des Champions demain.
Juve Real, c'est un remake de la finale de l'année dernière, c'est plutôt aujourd'hui, Abdourahmane. Le club espagnol s'était imposé 4-1. C'est aussi un choc entre un club italien, deux fois finaliste en 3 ans, et le double tenant du titre espagnol. Une opposition de style entre des Turinois plus à l'aise en défense, seulement 5 buts encaissés depuis 25 matchs, toutes compétitions confondues, et les Madrilènes connus pour leur puissance offensive. Cristiano Ronaldo, ménagé ce week-end, arrive lancé avec 23 réalisations sur ses 13 dernière sortie en club et en sélection.
Et à la même heure, et dans l'ombre de cette affiche, se joue le match Séville-Bayern plutôt.
Oui, Abdourahmane, une rencontre a priori déséquilibrée. Les Munichois en sont à leur 7e quart de finale d'affilée et les Andalous disputent leur premier quart de finale de Champions League depuis 1958. Mais méfiance, le Bayern s'est incliné lors de ses 5 derniers déplacements en Espagne et Séville n'était déjà pas favori face à Manchester United, qui l'a pourtant éliminé en 8e de finale.
Et rapidement, d'autres affiches également?
Oui, Abdourahman, Kevin De Bruyne et Mohamed Salah vont s'affronter sous les couleurs de Manchester City et Liverpool dans un quart de finale de Ligue des Champions 100% anglais. Salah impressionne avec ses 37 buts, dont 29 en Premier League, pour un Liverpool chatoyant qui lutte avec Manchester United pour la place de dauphin de City. Dans l'autre match de la soirée, bonne nouvelle pour le FC Barcelone qui récupère son milieu défensif Sergio Busquets, rétabli d'une fracture à un orteil avant de recevoir l'AS Rome.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahman Dia en votre compagnie. On passe tout de suite au dossier du jour. En Guinée, le président Alpha Condé et le chef de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, ont conclu un accord pour résoudre les contentieux sur les résultats des élections locales du 4 février et mettre fin aux manifestations, ce qu'ont annoncé les deux partis. Et pour parler de cette actualité, John Lyndon a joint Bahouri, premier vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée.
Dans le cadre normal du fonctionnement des institutions du pays, c'est une rencontre tout à fait normale puisque la loi l'indique, le chef de file de l'opposition a un statut, disons, d'une institution dans notre pays et la loi indique qu'il doit rencontrer régulièrement le président de la République pour échanger sur l'évolution de la situation du pays. Si c'était ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ce qui est là où le bât blesse, c'est lorsque le chef de file dit de l'opposition organise régulièrement des manifestations qui occasionne des pertes en vie humaine, des dégâts de biens économiques. Moralement, sur le plan politique, ce n'est pas acceptable.
Vous le disiez donc tantôt, Sélou d'Alain Diallo, on le sait, a perdu les élections locales, mais il est aussi celui qui descend régulièrement dans les rues et avec lui de nombreux jeunes. Et le voilà qui s'en va rencontrer le président Alpha Condé. Qu'est-ce que cela signifie?
C'est vraiment un manque total de stratégie, parce que ce n'est pas la première fois. Avant l'élection présidentielle de 2015, il fait descendre les gens dans la rue pour dire « sans les élections communales, avant les présidentielles, on n'acceptera pas d'aller aux élections ». Quelques temps après, avec une acceptation de la mise en place de délégations spéciales sur l'ensemble du territoire national, où les deux blocs, RPG d'un côté et UFDG de l'autre, se sont partagés la gouvernance locale, on est allé aux élections présidentielles de 2015.
Est-ce que, à votre avis, cette rencontre entre Sélou d'Alain Diallo et le président Alpha Condé va régler le problème politique en Guinée et les différends qui vont avec?
Pour les observateurs qui sont lointains, c'est difficile de comprendre la logique qui préside c'est le comportement de certains responsables en Guinée. À l'heure actuelle, M. D'Alain est empêtré dans des difficultés énormes au sein de l'UFDG où son leadership est fortement contesté. Deuxièmement, il y a des dossiers judiciaires d'une extrême gravité qui sont en instance, mais je pense qu'il est déjà has-been. Il tente coûte que coûte de résister et en usant de méthodes peu orthodoxe, la sagesse aurait demandé à faire preuve de plus de retenue et d'intelligence pour savoir tirer sa révérence.
C'était Bahouri, premier vice-président de l'UFDG, joint à Conakry.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la vie et l'héritage de Winnie Mandela, décédée lundi à l'âge de 81 ans. Comment a-t-elle contribué à la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud? Quel rôle a-t-elle joué en tant que militante de l'ANC durant les 27 années de prison de son époux Nelson Mandela, l'icône de la nation arc-en-ciel? L'image de celle que le peuple sud-africain appelait affectueusement Winnie a-t-elle été écornée par des dérapages politiques et des affaires de corruption? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le transfèrement du djihadiste malien Mohamed Al-Hassan à la CPI est à nouveau une manifestation de l'hypocrisie internationale à l'encontre du peuple malien, selon le journaliste Abdoul Niang. Joint au téléphone à Bamako, Abdoul Niang a déclaré que les vrais auteurs de crimes dont est accusé Al-Hassan sont en liberté. On écoute Abdoul Niang, joint par Irénée Hermanoumbo.
Nous avons accueilli cela comme une autre hypocrisie de la part de la Cour pénale internationale parce que jusque-là, on ne voit que les menus chrétiens dans les mailles de la justice alors que les véritables criminels sont toujours là, entre guillemets, fréquentables ou bien leur libération est tout le temps réalisée sous la pression parce qu'on voit qu'on fait même la pression et sur nos autorités pour libérer les grands criminels, les grands terroristes.
Mais qu'est-ce qui fait la pression sur les autorités?
Moi, je vois surtout la communauté internationale, surtout la France, qui est aussi une puissance qui est derrière ça. On se rappelle la libération de Wadou Sen sous la pression de la France en contrepartie de la libération d'un otage. Vous avez vu quelle pression ils ont fait sur nos autorités. Le même Wadou Sen, qui est un véritable criminel, un dinosaure de ces terroristes, si vous voulez, de ces djihadistes, qui a eu à faire pas mal de crimes et d'atrocités au nord de notre pays.
Vous appelez Mohamed Al-Hassan menu frétin, mais il est accusé quand même de plusieurs crimes, dont torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour motifs religieux. Pour ne citer que ceux-là, quand même, c'est des crimes assez graves, non?
Si vous voyez les crimes qui ont été commis au nord de notre pays de 2012 à maintenant, et prendre quelqu'un comme Mohamed Al-Hassan comme étant l'auteur de ces crimes-là, ça me fait rire et ça me fait sourire. Quelqu'un que personne n'a connu d'ailleurs, si ce n'est pas maintenant, ça veut dire qu'il n'est pas parmi les gens qui se sont illustrés dans ces atrocités, hein, dans ces cruautés. Et qu'on prenne ce dernier aujourd'hui pour brander fort de cela un trophée aujourd'hui, pour moi, c'est tellement ridicule et c'est même une insulte à l'endroit de l'opinion nationale et internationale.
La Cour a mené ses enquêtes avant d'identifier Al-Hassan, donc elle a des preuves contre cet individu.
Oui, elle a mené des enquêtes. Certainement, elle aurait bien découvert que Mohamed Al-Hassan n'était qu'un simple exécutant parmi tant d'autres. Il y a des vrais décideurs qui sont là. Il y a des vrais auteurs, des vrais criminels qui sont là. Donc, lui n'était qu'un simple subalterne, tenu d'exécuter les décisions venant de la hiérarchie. Et ceux qui composaient cette hiérarchie-là sont toujours là.
C'était le journaliste malien Abdoul Niang.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En France, la grève massive des cheminots paralyse les transports dans tout le pays. Seul le trafic international est à peu près épargné. Les syndicats de l'opérateur public SNCF protestent contre la suppression de l'embauche au statut spécial. Les modalités d'ouverture à la concurrence et la transformation de la SNCF en société anonyme. Pour savoir comment les Français perçoivent ce mouvement de grève, Eric Manirakiza a joint à Paris le directeur du Centre de recherche politique de sciences politiques et spécialiste du mouvement syndical en France, Henri Ray.
Pour l'instant, il n'y a pas un mouvement massif de désapprobation de ce mouvement, mais il vient juste de commencer. Et donc les effets n'en sont pas encore véritablement ressentis. Les Français sont en gros partagés en deux camps, entre ceux qui soutiennent ce mouvement, non point pas simplement pour les cheminots eux-mêmes, mais en prévision aussi des réformes à venir, et notamment les fonctionnaires, quoi, tous les agents du service public. Il y a cette opposition de ceux qui, évidemment, trouvent qu'on les empêche de travailler, de se rendre, d'aller et de venir, de se rendre là où ils doivent aller pour leurs affaires personnelles ou pour leur travail.
Est-ce que c'est une grève qui va réellement tenir longtemps?
On ne peut pas le dire, mais il y a une forte détermination de part et d'autre. Forte détermination du gouvernement à ne pas céder, car d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire on peut faire quelques concessions, on peut débattre à la marge, mais quand une décision a été arrêtée, elle est légitime puisque le président a été élu par le peuple français et donc est dépositaire de cette légitimité. Il y a du côté de l'exécutif une très grande détermination et du côté des grévistes, alors là le camp syndical est un peu hétérogène, mais de la principale organisation chez les cheminots qui est la CGT, il y a une très forte volonté de mener un combat qui en plus de cela anticipe en quelque sorte la réforme des retraites et d'autres éléments qui font partie du programme d'Emmanuel Macron.
Mais ils ne pourront pas être payés pendant des jours de grève.
Non, ils ne sont pas payés normalement. C'est toujours à la fin de la grève qu'on règle cette question. C'est-à-dire à la fin de la grève, ça fait partie des négociations, de savoir si il y a une certaine indemnisation, des possibilités de rattrapage.
Est-ce que des syndicats ont les moyens de payer les grévistes ?
Non, pas en France. Il n'y a pas ces caisses de grève qui permettent dans d'autres pays de tenir longtemps, de verser des allocations importantes aux grévistes. Ça ne fonctionne pas bien en France. Non.
Et sur les revendications elles-mêmes, est-ce que les cheminots ont-ils totalement raison ou le gouvernement a-t-il totalement raison ?
Si le gouvernement ou les cheminots avaient totalement raison, peut-être qu'il n'y aurait pas de conflit. Évidemment, il y a des craintes d'un côté et de l'autre côté, il y a des impératifs. Mais il y a évidemment des arguments qui s'opposent et des intérêts qui se confrontent. Oui.
Des cheminots à la retraite, ils ont quand même des avantages exorbitants que d'autres Français n'ont pas.
La réforme de la retraite des régimes spéciaux, dont font partie les cheminots, cette réforme des statuts spéciaux n'est pas sur la table. C'est déjà en partie engagé par des réformes précédentes. Mais il n'y a pas de modification du statut.
D'après vous, quelles sont les concessions possibles des deux côtés ?
Il y en a une qu'il ne peut pas faire parce qu'il a des engagements européens, c'est l'ouverture à la concurrence.
C'était Henri Rey, spécialiste du mouvement syndical en France, joint à Paris. Les centres de réinstallation des réfugiés aux États-Unis licencient du personnel et réduisent les opérations à la demande du département d'État. L'administration Trump a décidé de n'accueillir que 10 000 réfugiés au cours de la première tranche de l'exercice fiscal 2018, le nombre le plus bas depuis les 38 ans d'existence du programme américain d'admission des réfugiés. Bill Rogers de la VOA s'est rendu dans un de ses centres à Lancaster, en Pennsylvanie. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide.
Vous ne pouvez pas conduire sans un permis.
C'est l'une des règles qu'ont à apprendre les Ebeoula dans leur nouveau pays, beaucoup absorbés un jour après leur arrivée à Lancaster sur un vol en provenance d'Afrique, épuisés. Cette famille congolaise écoute les membres du personnel de Church World Service, eux-mêmes d'anciens réfugiés. L'accueil des réfugiés ne représente que l'une des nombreuses activités de CWS Lancaster, mais comme les arrivées sont en baisse, certains employés ont été remerciés. Sheila Mastropietro, directrice de ce centre, craint ce qui risque de se passer si la politique change à nouveau à l'avenir pour admettre plus de réfugiés.
Alors que nos employés sont mis à pied et sont obligés de se recycler dans d'autres domaines, il va falloir refaire le tout et cela aura un coût. Le gouvernement américain a de l'argent. Nous devons de nouveau accueillir au moins 75 000 réfugiés par an.
L'un des coûts a trait au nombre réduit de personnes formées pour aider les réfugiés à commencer leur nouvelle vie. Ce groupe de Congolais est arrivé à Lancaster il y a moins d'un mois. Congolais, il était lui-même réfugié, arrivé à Lancaster il y a 2 ans.
Les gens, la langue, la culture, tout est différent. Notre anglais est un peu différent de l'anglais africain, donc pour changer d'une culture à une autre, ça a pris du temps. C'est un grand défi.
Trouver du travail n'est pas chose facile, mais CWS Lancaster parvient à placer un grand nombre de réfugiés dans des entreprises locales, au marché central de la ville, où ils sont nombreux à faire leurs emplettes, y compris les nouveaux arrivants. Il y a des mots chaleureux. Bruce Markey, directeur du marché de Mec.
Nous devrions être une ville ouverte. Nous devrions inviter ces gens ici. Je pense que c'est merveilleux pour nous en tant qu'habitants de cette ville. Je pense que cet accueil permet de rassembler beaucoup de cultures. Vous devez pouvoir ouvrir vos bras aux gens qui en ont besoin.
Mais d'autres sont en faveur de la politique migratoire plus restrictive de l'administration Trump. Mark Verginez, président de la firme Myra's Financial Partners.
Je suis pour un coup de frein. Il faut nous assurer que nous sommes en train d'accueillir ici. Je comprends aussi le point avancé par le milieu des affaires et entraîne notamment à une immigration basée sur le mérite. Face à la masse qui arrive si vite, vous devez avoir un plan.
Pour la famille Ebeoula installée dans leur nouvelle maison, il faut s'adapter aux températures contraire au climat chaud de l'Afrique. Après avoir fui le Congo et vécu des années dans un camp de réfugiés tanzaniens, Amkabi Ebeula veut la paix. Manger un repas traditionnel congolais aide à éviter d'avoir le mal du pays et éloigner momentanément le stress de commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais une fois le repas fini, la vaisselle faite et les plats.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Sims Loumami l'a réalisé. Présentation Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
VOA Afrique.